À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question de Franz Kafka. Je viens de recevoir un téléphone enthousiaste d'une dame qui s'est dit « Oh, je ne veux pas manquer ça » et elle a bien raison car c'est un des grands, grands écrivains du début du siècle. Un écrivain tchèque, de langue allemande quand même. Et on peut dire que c'est l'écrivain du désespoir de l'homme devant l'absurde, mais à la recherche d'un sens, et c'est extrêmement intéressant de suivre sa démarche, car c'est celle de beaucoup de gens et peut-être de personnes qui écoutent Rencontres spirituelles. Ils sont dans la même démarche que Franz Kafka, et je dirais même que nous sommes presque tous un peu dans cette même démarche, car souvent l'absurde nous écrase devant... ou la maladie, des deuils, la mort qui arrive trop tôt, et quantité de choses. Dans un article de Jean-Pierre Denis, qui est un excellent critique littéraire du Devoir le samedi, paru il y a un peu plus d'un an et demi, il avait écrit une critique très intelligente d'un ouvrage où il est question de Franz Kafka. C'est un ouvrage de Pierre Mertens, un écrivain belge. Et c'est paru chez Arléa à Paris en 1997. C'est Une seconde patrie. Et Jean-Pierre Denis avait intitulé son article Une profession de foi. En citant Malraux au début, dont il est question aussi dans l'ouvrage, et Malraux dit cette chose merveilleuse, le plus grand mystère n'est pas que nous soyons jetés au hasard entre la profusion de la matière et celle des astres, c'est que dans cette prison, nous tirions de nous-mêmes des images assez puissantes pour nier notre néant. Oui, nier notre néant. C'est le début de notre éveil quand on nie notre néant. Et quand on accepte la valeur que nous sommes, le miracle que nous sommes, comme dit l'Écriture. Et dans sa critique, il dit « Ce qui manque sans doute le plus aujourd'hui, c'est le tranchant, le péremptoire, et pourquoi pas l'absolu ?» Et Jean-Pierre Denis ajoute entre parenthèses « Ça viendra, ça viendra. » Oui, ça vient. On a annoncé ce matin aux nouvelles que les livres religieux de valeur se vendent de plus en plus. Il y a une progression. Il y a une accentuation de la recherche spirituelle et du sens. Et Jean-Pierre Denis ajoute que Kafka prend une place centrale dans la recherche littéraire d'aujourd'hui parce qu'étant la littérature même, tout ce qui lui arrive advient à la littérature en général. C'est la partie la plus étoffée du livre de Pierre Mertens, dit-il, et la plus nourrie d'expériences personnelles. Et Jean-Pierre Denis ajoute, est-ce que Pierre Mertens, l'auteur de l'ouvrage toujours, n'a-t-il pas découvert Kafka dans la salle d'attente d'un cabinet médical à 15 ans, alors qu'il souffrait de crises d'asthme et de suffocation? Et Jean-Pierre Denis ajoute avec humour, on rêve du jour où les dentistes et les médecins, plus instruits en sciences de l'âme et du cœur, cesseront de donner en pâture à leurs patients de vulgaires revues pour leur faire découvrir les grands auteurs. Ce fut en tout cas à partir de ce jour que la guérison commença pour lui, pour Pierre Mertens, et c'est pourquoi on ne pourra jamais le convaincre que Kafka est un nihiliste. C'est pas un nihiliste, Kafka. C'est quelqu'un qui est à la recherche de Dieu, et même, je dirais, du Christ, comme vous verrez. Et Jean-Pierre Denis ajoute, pour lui, le mal de vivre qu'il porte en sa littérature est précisément celui qui peut nous en guérir. Ses livres paraissent, il cite l'auteur Pierre Mertens, ses livres paraissaient, en l'évoquant, apporter un remède, enjamber l'abîme même qu'ils ouvraient. Parce que il y a un acharnement qui paraît peut-être chez Kafka tenir de l'échec. Non, c'est une quête de vérité qui ne peut se contenter, pour reprendre les mots de Malraux, de l'auberge sans route qui s'appelle la vie. C'est comme si nous étions dans une auberge où il n'y a même pas de route autour, et ce serait ça la vie. Voyons, voyons. Tout au contraire. On a, vous savez, c'est le 75e anniversaire de son décès aujourd'hui à Franz Kafka. Je vous le signale. Je m'inspire d'un texte admirable de Guido Sommaville apparu dans une revue de Milan, la revue Letture. C'est extrêmement intéressant, son approche plus intéressante que celle de Charles Müller dans Littérature du XXe siècle et Christianisme, le troisième tome où il est question de Malraux, de Kafka, de Vercors. Il a écrit de nombreuses pages sur Kafka, mais je préfère ce que dit Guido Sommaville là sur la religiosité, la religion de Kafka, la religiosité, disons, le sentiment religieux. Les points de vue sont très divers et contrastés au sujet de cet aspect de Kafka. Était-il vraiment un homme religieux? Mais la réalité même de ce sentiment religieux chez lui, même si c'est contesté, on peut voir qu'à partir des textes, surtout par les dernières années, là, les années avant sa mort, il est mort en 1924, je le rappelle, et de 1916 à 1924, c'est fantastique ce qu'on trouve. En fait, quand on passe en revue tous les textes, tous les témoignages, on peut, je pense, contrairement à ce que bien des gens et des critiques ont dit ou écrit, on peut affirmer sans aucune hésitation que Kafka n'a jamais été certain de l'inexistence d'un Dieu transcendant. Au contraire, bien plutôt, il a toujours été certain, vraiment, de l'existence de Dieu. Même si parfois, dans des conversations, pour faire de l'humour à la Kafka, justement, il semble dire des petits blasphèmes quand il est jeune. Tout au plus est-il incertain, parfois négatif, et c'est difficile pour lui de croire vraiment en ce Dieu. Bon, il est juif d'origine, il est juif incroyant, et il a de la difficulté à croire à la providence de Dieu. Une providence, un amour de Dieu envers lui, puis envers l'homme en général, parce qu'il trouve que l'homme s'est rendu tellement indigne de l'amour que c'est pas possible. Il a pu considérer Kafka comme problématique, là, la possibilité d'une relation particulière, personnelle, de nous, là, entre l'homme et Dieu. Il y a de la difficulté à croire à ça, mais à la fin, là, pas longtemps avant sa mort, il y croit. On trouve chez lui des mots désolés, terribles, comme celui qui sont rapportés, des mots qui sont rapportés par son ami Max Brod. On doit beaucoup à Max Brod, qui a su sauver ses œuvres qu'il, Franz Kafka voulait détruire, qui les a publiées après sa mort. Et Max Brod rapporte des mots sur Dieu qui aurait créé le monde un jour de mauvaise humeur. Je souris en lisant ça parce que c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir dans des moments de découragement. Hein? Et je l'avais jamais entendu exprimer de cette façon-là. Je sais bien que Dieu n'a pas créé le monde dans un moment de mauvaise humeur, je sais bien. Mais je comprends qu'il l'ait dit quand même. Il est à la recherche. Hein? Et Max Brod lui dit, après cette réflexion-là, il dit « il n'y a pas d'espérance alors ». Il dit « oui, 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 mais s'il y a de l'espérance infiniment, elle est pour Dieu et non pas pour nous », tellement il est désespéré à ce moment-là. Hein? Et il dit à Brod, d'ailleurs son ami Max Brod, « maintenant, il fait nuit, comme il convient, pour le dernier blasphème ». Il appelle ça des blasphèmes parce qu'il sent bien qu'il ne devrait pas dire ces choses-là. Mais ce sont des mots d'humour noir kafkaïen, comme on dit. Hein? C'est passager. Brod en est le témoin le plus important du vrai sentiment religieux de Kafka, et quand il rapporte ça, il le rapporte pour ce que ça vaut. Mais il y a une parcelle de vérité, disons, dans cette inquiétude chez Kafka, et c'est une inquiétude que partage une grande partie des êtres humains. C'est pour ça que j'aime beaucoup Kafka, et que je le trouve un écrivain passionnant. Vraiment, il me passionne. Hein, car il y a de la vérité dans l'idée d'un mélange de divin et de démoniaque. Les gens ayant souvent attribué à Dieu des actes d'injustice épouvantables. Et c'est comme si on traitait Dieu de vraiment injuste et cruel. Or, Dieu est bon. Or, Dieu, chez Kafka, souvent est soupçonné dans l'angoisse là, d'être d'accord avec le diable. qui si souvent arrête, confond, tourmente l'homme coupable dans sa recherche du salut par Dieu. Mais on peut montrer que la recherche religieuse de Kafka progresse, hein, ça va toujours en avant. Il s'est approché du christianisme, mais malheureusement il est mort jeune. Ça progresse plutôt difficilement vers ce qu'on pourrait appeler la reconnaissance d'une distinction et même d'une claire opposition entre le diable d'une part puis Dieu d'autre part, hein, vers l'idée d'un Dieu qui est l'ami de l'homme face à l'adversaire, ce qui vient plus bon sens. Hein. Il faut quand même se rendre compte que cette recherche est la recherche de la plupart d'entre nous. Franz Kafka est né en 1883 à Prague, en Tchécoslovaquie. Il est mort près de Vienne, en Autriche, le 3 juin 1924. Il appartenait, c'est donc pas l'anniversaire aujourd'hui, de 75e, ça sera le 3 juin de son décès. Il appartenait à une minorité juive de langue allemande, à Prague, qui est pourtant la langue, c'est le tchèque qui est parlé là-bas. Et c'était comme un îlot hein, dans la ville tchèque, ces juifs de langue allemande. Kafka est donc, dès l'origine, triplement déraciné d'une certaine façon. Hein. Cette fatalité, a-t-on écrit, ne tient pas uniquement au fait que Kafka était juif, dans un pays où l'antisémitisme, au moins sous sa forme latente, était pour ainsi dire traditionnel. Elle est en grande partie déterminée par la situation historique, sociale, et ethnique de Prague, qui ressemble un peu à Montréal, hein, où il y a tellement de peuples qui ne se connaissent guère, qui vivent chacun dans leur ghetto, comme les Anglais d'une part, les Français d'autre part, les Juifs, que nous ne connaissons pas beaucoup malgré tout, etc. Situation qui n'a plus d'équivalent, dit-on, en Europe. Mais ici, à Montréal, ça existe toujours. Hein. Et l'œuvre de Kafka donne peut-être l'image la plus fidèle de tout ça. Tout dans cette capitale de Prague, qui n'est en fait qu'une petite ville, semble concerté pour faire naître l'idée d'une distance absurde, infranchissable entre les hommes, apparemment liés par les mêmes intérêts ou le même genre de vie comme nous sommes. Nous ici à Montréal, nous sommes pris dans la même ville et nous menons un peu le même genre de vie, mais il y a des différences de langue, de mœurs, de culture, qui maintiennent strictement à Prague dans ce temps-là, qui maintiennent séparés les trois groupes humains rassemblés là depuis des siècles. C'est dérisoire, finalement. Il y a les Tchèques, évidemment, les Allemands de Bohème séparés de l'Allemagne, puis les Juifs. Juifs, donc, il est triplement suspect aux yeux des Tchèques, car il n'est pas seulement juif, il est aussi allemand. Imaginez. Il est aussi le fils d'un commerçant dont la plupart des employés sont tchèques. Mais allemand, il ne l'est que par la langue, ce qui, évidemment, le relie fortement à l'Allemagne, mais nullement aux Allemands de Bohème, qui, à ses yeux, ne peuvent être qu'une caricature des véritables Allemands. Il est d'ailleurs séparé d'eux, non seulement par leurs préjugés de race, mais encore par le ghetto. Un ghetto qui a des murs invisibles et dont la bourgeoisie juive s'est volontairement entourée pour conserver ses traditions et la qualité de son peuple. Ainsi, Prague donne chaque jour à Kafka le spectacle d'une société où la proximité ne fait que, chose curieuse, qu'aggraver la distance parce que le voisin est loin. La séparation fondée sur une loi tacite est tacitement observée par tous, comme si la ville elle-même était victime d'un charme. Et en changeant de quartier, Kafka changeait aussi de monde. C'est un peu comme à Montréal. C'est très étrange tout ça. Et après une enfance, ce jeune juif Kafka, après une enfance remarquablement studieuse, c'est un type intelligent, hein. Kafka fait ses études de droit, puis il pratique jusqu'à la fin de sa vie le métier monotone d'employé. Je vous rappelle qu'il a été fiancé 3 fois, mais il ne se marie jamais. C'est comme Kierkegaard dont il a découvert le livre du juge, ouvrage extrêmement important de Kierkegaard, Søren Kierkegaard, ce Danois-là. En 1917, il trouve ça. Il va percer le désespoir radical là, de ce côté-là. Mais il n'y tombera pas vraiment, lui. Kierkegaard lui inspire heureusement une série d'aphorismes qui demeurent, écoutez bien, la partie la plus énigmatique, mais peut-être la plus riche, les aphorismes. Il faut lire ça, c'est de toute beauté, je vous en lirai des passages tout à l'heure, c'est très riche, c'est magnifique, c'est enlevant. Nous allons maintenant écouter, d'un compositeur hongrois, Ligeti, Métamorphose nocturne pour quatuor à cordes. Que c'est beau du Ligeti. J'aime beaucoup ce compositeur hongrois. L'histoire religieuse de Kafka est connue depuis son enfance, grâce d'abord à une longue lettre qu'il écrit à son père, une lettre de 70 pages. Et encore très jeune, bien, il abandonne ce qu'il appelle le temple, si vous voulez, la synagogue, mais avec le sentiment d'accomplir ainsi, écrit-il l'acte le plus religieux, ou pieux, si vous voulez, qu'il pouvait accomplir. Ça ressemble un peu à une enfance à l'eau bénite de Denise Bombardier quand elle dit qu'elle a cessé d'aller à la messe, c'était l'acte le plus courageux qu'elle avait fait. Enfin, je ne suis pas toujours d'accord avec cette femme, avec laquelle j'ai travaillé pourtant et que j'estimais bien. Il ne s'agit pas donc de l'abandon sans plus de la religion de sa part, y compris la religion hébraïque, mais c'est de l'abandon de la religion que pratiquaient les Juifs très sécularisés de Prague, et plus généralement d'un abandon du judaïsme occidental, d'un éloignement de son père aussi, puis de ce milieu-là auquel son père appartenait. La religion n'est pas pour autant finie en lui, pas du tout, vous allez voir. Il le confie d'ailleurs à sa fiancée Felice. Elle s'est transférée dans toute autre région, dit-il. Elle s'est égarée, elle ne s'est pas éteinte, sa religion. Et il a au moins gardé une forte nostalgie de religion. C'est ce qu'il écrit à 29 ans dans une lettre à Felice, sa fiancée, le 6 juillet 1912. Un vif intérêt l'anime. Chaque fois qu'il arrive d'avoir contact avec des juifs orientaux de religion traditionnelle. Alors, il aime beaucoup les acteurs yiddish. Et puis aussi ses enfants juifs réfugiés. Ils trouvent chez eux quelque chose, là. Et dans plusieurs lettres, on le voit qu'il cherche à faire partager cet intérêt à sa fiancée, à d'autres personnes, vers 1916. Donc, 8 ans avant sa mort. Mais, après l'abandon du temple ou de la synagogue, par où passe sa religion alors? Mon premier abord, la réponse n'est pas aisée car il a détruit presque tout ce qu'il a écrit entre 18 et 29 ans. Dans une lettre de 1903 à 20 ans, on le surprend qu'il lit la Bible. Il lit même Maître Eckhart, ce fameux dominicain dont je vous ai déjà parlé, l'un des plus grands mystiques de l'histoire de l'Église catholique. À partir de 1912, il n'y a pas d'année où il ne lise la Bible. Puis à partir de 1917, écoutez bien ça, il la lit beaucoup et désormais le mot Bible inclut l'Évangile. Et on peut dire que le cheminement religieux de Franz Kafka est durant toute cette période très personnel. C'est confondu avec sa personne. Il passe par son travail d'écriture. Pour lui, c'est le cœur de sa vie, ça. Le travail d'écriture, c'est-à-dire d'écrivain, si vous voulez. Et il passe par son travail d'écriture, journaux. C'est là qu'on voit le cheminement. Il écrit son journal. Des romans extraordinaires, comme Le Procès, Le Château. C'est très, très fameux. Hein. Des chefs-d'œuvre. Et il y a aussi des récits. Oh, c'est passionnant, les récits. C'est publié sous le titre « La muraille de Chine et autres récits » chez Gallimard. J'ai une vieille édition de ça. Passionnant, c'est tout jauni maintenant. Ça date de 1950. Mais passionnant, hein, pas tous, mais passionnant. Ces récits-là, c'est extraordinaire. Surtout la muraille de Chine, j'ai beaucoup aimé ça. Et alors, donc, et il va falloir attendre la fin de 1920 pour trouver dans un fragment le mot « écrire comme forme de la prière ». Mais il faut, si on retourne en arrière, dès 1912, on peut lire « écrire régulièrement, ne pas se déclarer perdu, et quand bien même la délivrance ne devrait pas venir, je veux à tout instant être digne d'elle ». Il attend une délivrance. Qu'est-ce que c'est que cette délivrance? C'est évidemment celle à laquelle tout homme aspire, qui est au fond la sainteté. Seuls les saints sont libres. Je vais donner une conférence là-dessus lundi soir prochain. La sainteté qui libère, je donnerai ça à Granby chez les Trinitaires. Il cherche donc, Franz Kafka, par l'écriture, une délivrance, un salut, une rédemption. Mais quel salut? Le Heil, comme on disait Heil Hitler, je regrette, là, mais le Heil dont il est question dans un autre fragment du journal difficile à dater, est-ce que c'est un fétu de paille? Il décrit « Plus d'un homme se tient au-dessus de l'eau en s'accrochant à une ligne tracée au crayon. Se tient au-dessus de l'eau? Un rêve en sombrant d'un salut. » Il dit que les hommes sont pleins d'illusions, au fond. Il est prudent de ne pas trop vite penser au salut éternel quand on parle de ça. Mais c'est un salut de signes, en quelque sens religieux qui l'habite. Hein. Il cherche. L'énigme se dévoile un peu plus si on analyse le contenu des récits dont je viens de vous parler. Mais déjà, il y a un détail de son enfance. Selon la lettre à son père de 70 pages, là, qui peut contribuer à nous éclairer. Il explique pourquoi il n'a pas eu de bons résultats à l'école, puis il donne cette raison qui étonne chez un jeune garçon. Il dit, il était tellement pris alors par le problème de l'affirmation spirituelle de son existence que tout le reste manquait d'intérêt pour lui, ça ne l'intéressait pas d'apprendre les mathématiques, etc., etc. C'est l'affirmation spirituelle de son existence qui le hante déjà quand il est jeune. Le journal, son journal, comme vous en tenez peut-être un journal, madame, monsieur, mais mentionne avec une certaine fréquence des états d'insécurité spirituelle. Il a des impulsions à se décourager, jusqu'à des envies de suicide. Comme beaucoup de gens aujourd'hui peuvent se retrouver chez Franz Kafka. Hein. Il y a une analogie entre tout ceci puis le problème d'une affirmation spirituelle de son existence dans son enfance. Hein. Il y a un passage extraordinaire d'une des lettres à sa fiancée qui revient encore. Hein. Là, Dieu en personne, en toutes lettres, est au centre du problème. Kafka a appris que Felice va quelquefois au temple, synagogue. En quoi consiste, lui demande-t-il, cette religiosité qui te pousse, qui te soutient? L'idée du judaïsme ou celle de Dieu? Sens-tu ce qui est le principal? Des relations ininterrompues entre toi, puis une hauteur ou une profondeur située à une distance rassurante, si possible infinie, qui te garde, qui te donne la paix? Il pose ces questions-là, et tout ça, cette paix, on peut se sentir confirmé spirituellement dans l'existence de cette paix, et aussi par voie de conséquence, physiquement même, quand on va dans un temple, dans une synagogue ou dans une église. Et Kafka continue, il dit, « Qui sent cela continuellement? Qui se sent ainsi soutenu par Dieu? peut se dispenser de courir comme un chien perdu, se dispenser d'avoir envie de se glisser dans la tombe comme si elle était un sac de couchage bien chaud et la vie une froide nuit d'hiver glacée. Ce sont des textes magistraux. La religion, c'est donc se sentir soutenu, voulu, aimé individuellement, affirmé dans l'existence, hein? Par Dieu, du moins en désir, comme une espèce de nostalgie. Voilà ce qu'on rencontre chez Kafka à 30 ans. Et le contenu des trois premiers grands récits est propre à faire peur, hein? Les titres, écoutez bien, le verdict, la métamorphose d'homme en insecte, qui est un curieux texte, puis la colonie pénitentiaire. Alors, il aurait voulu leur donner le titre général de châtiment. Ce sont des façons de parler, des métaphores, au fond, de son énorme sens de la faute. Et la solution est chaque fois la mort, condamnation à mort, et même le suicide. C'est un peu désolant de lire ça, mais il faut aller jusqu'au bout de son œuvre pour voir la beauté. Parce que le problème de la faute chez lui, puis le sentiment de la faute, là, chez Franz Kafka, sont aussi le sujet de fond des deux premiers romans. Le premier, c'est Amérique ou l'exilé, contient l'histoire d'un adolescent innocent qui est puni cependant de déportation et d'exil. Puis le second, mais c'est le très, très connu, Le procès, qui parle d'un homme de 30 ans qui clame son innocence, puis il est accusé d'un crime qu'il ne veut pas admettre. Et pourtant, dans l'épilogue, à la fin du livre, là, il s'avance aussi vers la condamnation à mort. Il semble que son vrai crime est de toujours vouloir posséder avidement la vie, au lieu de la recevoir avec gratitude comme un don. Et c'est notre grand péché. Nous possédons avidement la vie, nous voulons jouir de la vie, etc., du succès, l'argent, l'amour, le sexe, etc., au lieu de recevoir avec gratitude comme un don pour servir. Il y a un sens religieux de la vie très clair, tout au moins suggéré en tous les cas, si c'est pas assez clair. Mais la dimension religieuse de la faute est présente dans le rapport constant entre un accusé puis des pouvoirs supérieurs inaccessibles, le tribunal, les juges, qui ne cessent de chercher à rencontrer. Il y a un air de défi, l'accusation qui est retournée. Tout ça se déroule finalement dans une cathédrale, devant un prêtre, un aumônier des prisons. Il y a quelque chose de religieux dans tout ça. Et le procès, c'est la vie qui se déroule petit à petit en condamnation à mort. Mais une mort qui, au bout du compte, pourrait être aussi une libération, justement. Une mort qui, finalement, est peut-être la porte au sein de la loi, au sein du divin, hein? S'il fallait qu'on vive 1 milliard d'années sur cette terre, ce serait infernal. Heureusement qu'il y a la mort qui nous libère et qui nous jette dans les bras de Dieu. Et il entrevoit ça. Nous allons maintenant encore écouter quelques mesures de Ligeti, de sa métamorphose nocturne. Et alors, aujourd'hui, il est question de Franz Kafka, l'un des plus grands écrivains des temps modernes, de ce siècle même, qui a écrit un roman dont je viens de vous parler, Le procès, puis après Le procès, paru en 1914, donc 10 ans avant sa mort, et surtout après le début de une tuberculose dont il a souffert à 34 ans en 1917, le thème de la faute est dépassé. Désormais, ce qui va dominer dans les récits de Franz Kafka, comme dans le roman Le Château, s'est paru dans la collection Folio, n'est-ce pas? Vous avez le texte intégral dans la collection Folio, c'est numéro 284. C'est un roman très curieux, paru donc chez Gallimard, hein, Folio. Et puis, c'est toujours publié, ça. Ce sont des classiques, hein. Et c'était publié 2 ans avant sa mort, en 1922. C'est le thème de comment dirait-on, le drame, l'angoisse ou la peur de la limite, qui est inacceptable à l'homme. D'où la projection vers l'au-delà, l'infini, l'absolu. L'homme peut pas accepter que tout ça se limite. Je me souviens d'une parole de quelqu'un qui voyait son fils de 26 ans. Mourir et les funérailles où on chante la vie éternelle, et puis il n'y croit pas, puis il voit son fils au cimetière descendre dans le trou, puis se dit « c'est pas possible que ce soit fini comme ça ». Et il a retrouvé la foi. L'au-delà, l'infini, l'absolu. Le thème de la recherche humaine sans retour, quoi. Il se peut que ce nouveau Kafka ait été influencé par la lecture de Kierkegaard, peut-être aussi de Saint-Augustin, parce qu'il a lu les confessions de Saint-Augustin, vous connaissez ça, je vous en ai déjà parlé. Il a lu ça en 1917. Par exemple, après 5 mois à peine d'une correspondance d'amour brûlant avec Milena en 1920 à 37 ans, on entrevoit déjà une rupture. Puis dans une lettre, 1920, il écrit « Cette peur est la peur propre à toute foi depuis toujours, la rupture. » Et encore, il dit « C'est vraiment quelque chose de très grave que cette peur, qui en un certain sens s'explique aussi du fait qu'elle me représente constamment la nécessité de cet aveu, Milena elle-même n'est qu'un être humain. » En somme, comment posséder un être humain, l'aimer, puisqu'elle m'échappera? Il y a toujours une rupture qui est là. Le temps défait tout. Et il y a une part de désespoir chez lui quand il fait face à ses réalités. Alors, de juin à septembre 1922, donc 2 ans avant sa mort, Kafka écrit d'une traite Le Château. Histoire d'un mystérieux apenteur qui, à partir du village, escalade le château, puis le symbolisme religieux est clair. Je vous en fais grâce, parce qu'il y a là un grand désir dans tout ça. C'est le combat avec l'infini, avec Dieu, disons. C'est déjà le sens de d'un aphorisme. J'ai parlé des aphorismes qu'il a écrits, qui sont plus splendides, mais il y a un aphorisme du 13 décembre 1912, très tôt, là. Il écrit « Qui cherche ne trouve pas, mais est trouvé ». On trouve ça dans le 3e cahier in octavo, là. Il s'agit, semble-t-il, de l'homme qui cherche Dieu et qui est cherché et finalement trouvé par lui. Laissons-nous trouver par Dieu et laissons-nous prendre par Dieu en criant vers lui « Prends-moi ! Je m'abandonne à toi et fais de moi ce que tu veux ». Car ta volonté, c'est l'amour, je le sais. Je le crois. J'en suis convaincu. C'est le thème et le drame du château. Situation de Kafka qui est naufragé, qui rêve en sombrant d'un salut. Salut absolu. À la dernière frontière terrestre. Atteint par la tuberculose, comme je vous ai dit, Kafka rompt ses longues et dramatiques fiançailles avec Felice, fiançailles de 5 ans, il se réfugie à la campagne, à Durau, près d'Otla. Il y reste jusqu'à la fin de 1918. Pendant cette période, la tension religieuse, soudain, elle se ravive en lui. Ça s'enrichit. Chez un Kafka malade, la maladie, ça aide. Souvent. Il est aux prises avec le spectre de la mort prochaine. Alors il écrit, mais il lit aussi beaucoup la Bible et beaucoup d'auteurs chrétiens. Dans son écriture, comme je vous disais tout à l'heure, son métier d'écrivain, si on peut dire, il s'exerce à un genre littéraire presque entièrement nouveau, la sentence, l'aphorisme. Alors là, il établit des théories, les idées s'expriment directement, sans plus de symboles ni de métaphores. Et on peut le voir dans les 8 cahiers in octavo, surtout dans les 4 premiers. Les passages de caractère religieux sont très évidents, d'une grande intensité, et 2 années plus tard, à partir de l'automne 1920, Franz Kafka reprend ses cahiers, ainsi que quelques autres pièces aphoristiques, comme des fragments, et sur des fiches numérotées, jusqu'à numéro 109, il met au propre, chose rare chez lui, ses idées. Les idées qu'il avait à ce moment-là, celles qui, à ses yeux, sont les meilleures. Comme pour les choisir, de façon définitive, ce sont celles que Max Brod, son ami, intitulera « Considérations sur le péché, la mort, l'espérance et la vraie voie ». Voie vers Dieu, à travers la mort et l'espérance en Dieu. Ce ne sont pas les seuls thèmes du recueil, mais quelques-uns des principaux. Et ce Kafka décidé ayant bien réfléchi, c'est le Kafka de la 11e heure, hein? Arrive le moment où il devra faire face à l'au-delà, l'absolu. Et ce concentré religieux indispose et désoriente plusieurs commentateurs de son œuvre. Ils ne peuvent l'ignorer, mais certains ne veulent citer que quelques-unes de ces 109 considérations, hors contexte. Et ils sont un peu tordus, me semble, quand ils regardent ça, au lieu de regarder en face, comme la considération 46, qui est chez Kafka, familier de la Bible. C'est une formulation exacte du rapport de création. On cherche à lui donner un sens panthéiste. Ou bien on insiste sur la numéro 26. Il écrit, il y a un but et point de chemin. Alors on parle de désespoir, d'un Dieu inaccessible. Mais on oublie le numéro 39, où il dit « la voie est infinie ». Ça ne veut pas dire qu'elle soit impossible à parcourir. Kafka a de la ressource. Il a bien écrit « qui cherche ne trouve pas, mais est trouvé ». Ailleurs, il parle de grâce, ainsi que du miracle toujours possible. Et on peut citer la considération numéro 13 avec les mots « reste de croyance » et « le maître par hasard ». Comprend des attestations de désespoir, mais non de foi, et ils oublient la 14e, numéro 14, où Kafka se ravise puis dit « tu n'as pas à désespérer ». Quand on dit que Kafka est un désespéré, ben, il a bien écrit « tu n'as pas à désespérer ». Il est touché par le désespoir, mais ne désespère pas. Il y a aussi des aphorismes sur la foi solide et l'espérance sûre, qui sont pas suivis, comme en tant d'autres cas de contradiction. Il résulte de l'ensemble, disons, quelques conclusions nettes concernant le sentiment religieux de Kafka. Il s'agit d'authentique religion. Il est question de Dieu d'abord, et de Dieu personnel et en rapport personnel avec nous, les hommes. De Dieu, oh, écoutez bien ça, de Dieu qui est destination de l'homme, à atteindre dans une autre vie, vie supérieure, hein, c'est dans les numéros 97-96, il est question de survie après la mort, l'âme immortelle étant désignée comme l'indescriptible en nous. Notre âme est immortelle, indestructible, il le dit, numéro 50, 69, 70, au sein de cette vie périssable, de simple passage. Pour lui, la vie n'est qu'un simple passage, il le dit au numéro 105. Et on trouve aussi Dieu notre juge. Il dit aussi les comptes qu'il nous faudra rendre un jour de notre existence terrestre. Ce sont ses paroles. Seule force qui nous permet de supporter, certitude de l'éternel et unique justification de notre condition temporelle. Mais la situation de l'homme est tragique, c'est sûr. Nous sommes tous dans une situation tragique. Il est impossible de vivre sans une constante confiance en quelque chose d'indestructible en nous, dit-il. Numéro 50. Il dit que sans foi, on ne peut pas ne pas vivre. De fait, nous vivons. Et il écrit, c'est dans ce qu'on ne peut pourtant pas que réside la puissance folle de la croyance. On ne peut pourtant pas, on ne peut pourtant pas, on ne peut pourtant pas, et on croit. Et on se jette dans l'abîme du cœur de Dieu. Plus d'une fois, Kafka parle de prière. Dans la considération 106, où il s'agit surtout d'humilité, celle-ci, dit-il, met chacun et celui qui, isolé, ne se désespère, dans la relation la plus forte avec le semblable. Hein. Et pour lui, la prière, c'est ça. Ça nous met dans une relation la plus forte avec le semblable. Ceci est possible, dit-il, parce que l'humilité est le vrai langage de la prière. en même temps adoration de Dieu et lien indissoluble entre les hommes. Kafka parle aussi longuement de péché, des voies qui y conduisent, de celles qui en libèrent, et de la mort que nous pouvons peu à peu annuler au moyen de nos bonnes actions, dit-il. Il écrit aussi « Qu'y a-t-il de plus joyeux que la croyance en un Dieu, l'art ?» L'art, L-A-R-E, Shekina juive ou même habitation selon saint Jean de Dieu au milieu de nous, Dieu homme, Christ, Dieu l'art, c'est un Dieu domestique. Le Kafka des métaphores dont je vous ai parlé, celui des romans, des grands romans et des récits, n'est pas aussi explicite que le Kafka des aphorismes. Je le répète, c'est dans les aphorismes qu'on trouve les vraies pensées. C'est là où il s'explique plus clairement. Et c'est néanmoins le même Kafka, et il chemine déjà en écrivant récits et romans vers les aphorismes. Les aphorismes attendent peut-être leur transcription en métaphore, quand vient l'interruption de la mort en 1824 à 40 ans. Le jeune critique catholique Gustave Janusz posa un jour à Kafka une question expresse sur le Christ dans « Conversation avec Kafka », paru aux Lettres Nouvelles en 1978, il y a 20 ans. C'est une date difficile à préciser que ces conversations, disons, entre 1920-1923. Et c'est pas des conversations inventées, malgré ce qu'on a dit. « Et le Christ, dit-il à Kafka. » Mais Kafka répond sans embarras et sans hésitation, et il est clair qu'il y a réfléchi depuis longtemps, qu'il a depuis longtemps son idée bien arrêtée, depuis qu'il a lu Maître Eckhart et Kierkegaard, depuis qu'il se rendait dans les églises catholiques de Prague, et depuis qu'il choisissait des catholiques comme personnages de ses romans, y mettant aussi ça et là un certain nombre de symboles religieux catholiques, comme un crucifix, des images et des autels de la Vierge, une cathédrale, un aumônier, comme je vous ai signalé tout à l'heure, une église et son clocher. Mais Kafka dit d'un seul trait, « Le Christ, tu me poses la question, mais c'est un abîme de lumière. Il faut fermer les yeux pour ne pas y tomber. » Lui, il n'avait pas les yeux fermés. Il était d'une certaine façon tombé dans cet abîme. On le déduit du contexte immédiat où Kafka parle de grâce et de lui-même comme de quelqu'un qui s'efforce d'être candidat de la grâce. Il dit peut-être viendra-t-elle, peut-être ne viendra-t-elle pas. Peut-être cette attente est-elle l'annonce de la grâce, ou bien la grâce même. Alors du Christ, Kafka avait en fait déjà parlé en parlant du Juif qui a annoncé le message de salut à toute l'humanité. Hein? Jésus, le Juif, qui a annoncé le message de salut à toute l'humanité. Il y a des allusions claires au Christ et au christianisme dans plusieurs lettres de Kafka, bon, en petit nombre et réservé, mais il savait que sur le Juif sympathisant au christianisme, à plus forte raison baptisé, pesait une lourde discrimination, puis il avait peur de ça un peu. Cette discrimination avait atteint son oncle maternel et menaçait Otla, femme discutée d'un catholique, sa sœur. Avec Janusz, ce catholique, ce jeune catholique qui l'interview, il pouvait s'ouvrir plus librement, et il fit même devant lui le signe de la croix, puis se signa, dit-on, d'une grande croix romaine. Mais il ne manque pas de semblables indiscrétions chrétiennes dans d'autres textes de Kafka, que les conversations. Hein. Il y a d'ailleurs une évidente atmosphère d'éthique évangélique dans ces conversations, du vieux juif Kafka, comme il dit, « Il dit, nous, les juifs, nous naissons déjà vieux. » Il se fait maître de morale spécifiquement chrétienne pour ce jeune chrétien qui l'interview. À plusieurs reprises, chaque fois que l'occasion et le sujet s'en présentent, hein, je vous donne un exemple, les parents de Janusz se querellent, et quand Janusz, ce jeune catholique, cherche à s'interposer, ils le battent. « Comment agir alors ?» demande-t-il désespéré, au docteur Kafka, Franz Kafka, il dit « Par votre amour, par votre amour. Et s'il me tombe dessus tous les deux, ben oui, il répond, surtout à ce moment-là. » Là, il s'explique, Kafka dit « Il faut, par votre calme, votre indulgence, votre patience, bref, par l'amour, il faut, en dépit des coups et des injustices, les aimer comme deux égarés. » C'est difficilement plus chrétien, hein? Franz Kafka. Maintenant, écoutons un hommage à Hilding Rosenberg, un compositeur suédois, toujours du compositeur hongrois Ligeti, c'est pour violon et violoncelle. peut dire que Franz Kafka exerçait un certain magistère, presque sacerdotal, ou en tous les cas, c'est assez curieux, hein. Et le jeune homme l'appelle d'ailleurs mon maître et mon confesseur. Parce que ce jeune homme devient un admirateur complètement étonné. Sur Dieu, qu'il faut toujours rencontrer comme notre défenseur et juge personnel, bien que les prêtres et les rites, dit-il, une religion communautaire, soient aussi nécessaires comme des béquilles pour l'expérience religieuse de l'individu qui est toujours boiteux, dit-il. Et il parle aussi du prochain, sur le prochain ou celui que Dieu met sur notre chemin. C'est ça, notre prochain. Et il parle du péché, de l'art, de la prière, du sacré, y compris dans sa perversion, le diabolique. Il se montre même maître d'optimisme de la plus belle façon. Il dit, l'homme est toujours un abîme. L'art et la poésie en sont l'exploration. Ou bien, la vie est grande, c'est un abîme, mais à une condition. La vie est aussi immensément vaste et profonde que cet abîme étoilé au-dessus de nous. Et finalement, Janusz se demande si Kafka n'est pas arrivé à maturité. Il dit, je ne sais. Mais il dit, je crois que seul un saint, en parlant de Kafka, je crois que seul un saint possédé par la vérité comme l'était le docteur Kafka, le peut faire, hein, peut faire tout ce qu'il dit et faire ce qu'il fait. C'est assez curieux, se faire traiter de saint Franz Kafka. Alors, quand c'est lu dans cette perspective-là, car que ce n'est pas juste, il n'est pas possible que tout finisse dans l'absurde, un Dieu grand et bon, dit-il, ne peut regarder et laisser faire sans intervenir, sans porter remède. Alors, lu dans cette perspective, toutes les histoires tragiques de Kafka sont des prières. Et portent sûrement la prière à l'acte de confiance en Dieu. Et remarquez bien qu'il faut faire remarquer, aussi que les défis, les présomptions, les prétentions, les actions téméraires, dont on peut parler dans la vie de Kafka, mais chez Kafka, ça a pour objet non pas Dieu, mais son adversaire, qui est responsable, le démon en définitive, du blocage, du vertige, de l'exclusion, de l'échec. Dans tous les défis de ses héros, à commencer par un petit bonhomme qui s'appelle Karl Rossmann, en présence du capitaine d'un navire, au premier chapitre d'Amérique, là, son premier roman, jusqu'au défi du Landwehrmesser face aux sinistres autorités du château, ce roman aussi, on voit à tout bien prendre que Kafka se sent un allié de Dieu. Et il sent Dieu d'ailleurs comme son allié, car tous ses défis sont vains humainement parlant, mais non aux yeux de Kafka. Je vous lis un aphorisme, cette fois, de Hans-Urs von Balthasar, qui résume tout ceci. Il dit, Balthasar dit, c'est toujours la même chose, ne pas pouvoir. Lutter, mais en vain, pour aller jusqu'à Dieu. Puis, quand on n'en peut plus, alors, exactement dans cette fatigue, cet échec, découvrir alors que Dieu est arrivé. C'est du Balthasar. Il y a une insertion du journal 1921 qui pourrait aussi tout résumer. Mon frère a commis, je crois, que c'est un meurtre. Le châtiment, désolation ou délivrance venant de loin, approche, approche, puissamment. C'est tout le thème du procès. Avec simplicité, sympathique et évidente, n'est-ce pas? Le rapport d'égalité entre poésie tragique et prière reparaît dans une micro-métaphore d'une lettre à Max Brod en 1922, moins de 2 ans avant sa mort. À ce moment-là, Kafka, écrivain, fait une comparaison. Il dit « Je suis parti de chez moi et il me faut continuellement écrire chez moi. Quand même, tout chez moi serait depuis longtemps emporté dans l'éternité. Toute cette littérature, écoutez bien, n'est rien d'autre que le drapeau de Robinson Crusoe, vous connaissez, le naufrage qui n'a plus désormais aucune espérance terrestre sur le plus haut sommet de l'île. Il écrit comme s'il envoyait un drapeau à l'humanité pour essayer de dire « ne désespérez pas, finalement ». C'est à la fois tragique et superbe. On ne peut pas mener les mêmes recherches des indices touchant la religion de Kafka dans ses récits. Hein? Il y en a 79 en tout tiré ici, dont près de la moitié sont posthumes. On trouve pourtant 4 ou 5 prières proprement dites de Kafka à Dieu, à en juger par le contexte, dans les journaux ou les fragments de journaux. C'est des prières étranges. On dirait des prières kafkaïennes, comme on peut s'y attendre. En voici une, je vous la lis. C'est une curieuse prière. Dans l'obscurité du chemin, sous les arbres, un soir d'automne, je t'interroge, tu ne me réponds pas. Ah, si tu me répondais, si tes lèvres s'ouvraient, si ton œil s'animait, si la parole qui m'est destinée pouvait résonner. S'il allait à la messe, il entendrait la parole de Jésus. Mais une prière, un acte de confiance, on peut les trouver aussi dans l'invocation écrite sur lui, par lui sur un billet, un de ses derniers jours, alors qu'il ne pouvait plus parler. On la connaît en français. « Vers la profondeur, vers le port profond, au Fils des rois. » On dirait qu'il interpelle le Christ, Fils des rois. Hein? Ce sont des mots de quelqu'un qui se sent mourir, qui se sent sombrer en direction de la rive ou du port, de l'au-delà. Non pas l'au-delà de la mort compris comme un abîme ou un chaos, mais au-delà comme l'arrivée. C'est l'accostage. Son navire va accoster dans l'au-delà, près de Dieu. Alors il se signale, il se confie à un fils des rois. S'agit-il des rois d'Israël, du fils de David, du Christ? On peut se poser ces questions. On peut espérer, espérer avec tous ceux qui désespèrent, qu'ils trouveront la lumière et qu'ils entendront à la messe d'aujourd'hui l'antienne de la communion. Voici l'époux qui vient. Allez à la rencontre du Christ, le Seigneur.